J'ai maintenant appelé Isabelle Stengers, qui est philosophe et professeure à l'Université libre de Bruxelles. Elle est spécialiste de la philosophie des sciences et elle examine les pratiques liées à la volonté de faire science et aux rapports d'autorité qui lui sont liés. Attachée aux différentes formes de récalcitrance, elle s'intéresse également aux voies politiques et économiques alternatives. Elle est l'auteur avec Philippe Pignard de l'ouvrage « La sorcellerie capitaliste ». Elle est également l'auteur du livre que je vous recommande « Au temps des catastrophes, résister à la barbarie qui vient ». Et son intervention questionne l'idée de protection de la biodiversité. Je lui laisse la parole.
Je vous remercie beaucoup. Et je suis bien heureuse de vous avoir entendu avant de parler, parce que, étant donné les objectifs de cette... de Lydia... IPB, etc., je me demandais si j'allais devoir... faire une intervention agressive ou heureuse. Et voilà, c'est une intervention heureuse. Et c'est une occasion de dire la différence entre la question qu'on met sous le signe de l'extinction ou la biodiversité et celle qu'on met sous le signe du climat. Vous l'avez très bien dit et le climat, c'est un indicateur. C'est-à-dire, ça n'appartient à personne, mais ça. La tour dans Où atterrir dit Gaïa muette. Gaïa, c'est la Gaïa des climatologues. C'est la Gaïa des grands modèles globaux qui ignorent les peuples, qui ignorent les manières de faire, qui ne s'intéressent que à combien de CO2 ou d'autres gaz à effet de serre émettez-vous. On peut faire une dictature mondiale avec ça. On peut faire, ça peut être très inquiétant si c'est abstrait. Mais c'est un indicateur, ça doit être abstrait, et il écrit Gaïa donc muette, indique la Terre. Et c'est bien de la Terre, notamment de la Terre africaine, de la Terre et des mondes qui s'enchevêtrent dans la Terre que vous nous avez parlé, et de la nécessité de régénération de ces mondes par eux-mêmes, pas au nom du CO2, pas avec des experts qui viendraient mesurer la quantité de CO2 qu'ils émettent, mais par eux-mêmes. Ça fait partie de ce que j'essaie d'appeler à la suite d'un atime, penser dans les ruines, c'est-à-dire dans les ruines de ces projets globaux, dont l'économie est l'un des vecteurs de ces projets globaux, et savoir que rien ne se fera sans la régénération de ce qui a été détruit, de ce qui a été éradiqué. Donc c'est pour ça que, en ce qui concerne tant la biodiversité que les services écosystémiques, je crois qu'on est d'accord pour les prendre avec des pincettes. Puisque les services écosystémiques, c'est avant tout une manière d'essayer d'intéresser des économistes qui sinon auraient dit, mais... Donc de dire attention, vous détruisez, gare à vos externalités. Ce sont des mots qui n'ont de sens local, de sens concret, de sens qui font penser, imaginer et parler ensemble, nulle part en particulier, sauf dans les grands modèles, mais qui sont comme Gaïa, sauf que eux n'indiquent rien. C'est ça qui est inquiétant. Eux n'indiquent rien. La biodiversité, c'est pas un modèle, c'est une constatation qu'elle disparaît, et c'est une constatation qui peut avoir des conséquences absolument catastrophiques. Effectivement, vous avez parlé de l'Afrique et des pauvres. Ça croise totalement mon expérience. J'ai été en Afrique du Sud, chez des gens qui font des humanités environnementales, et là, leur grand problème en Afrique du Sud, c'est que la défense de la biodiversité, la conservation de la nature, du rhinocéros blanc par exemple, ça se fait, c'est une affaire qui est vue politiquement de blancs riches contre des pauvres noirs. Et la seule perspective qu'on peut apporter à ces pauvres noirs, c'est de devenir éventuellement des femmes de ménage et des guides pour touristes. C'est-à-dire d'être au service des touristes qui viennent et qui ne viendront que s'il y a le grand rhinocéros blanc. Donc c'est une version absolument caricaturale qui peut se déployer là-bas et qui vaut qu'on pense à chercher d'autres mots. Et effectivement, les mots que vous nous avez donnés vont dans exploration concertée, au fond, reprise en main de ce qui était le cas sur Terre jusqu'à la colonisation qui a eu lieu à la fois en Europe avec les enclosures, la destruction des communs et dans tous les pays qui ont été colonisés quand justement le règne d'un certain type de propriété a été imposé comme la seule manière civilisée de faire. Donc, au fond, comme Hattingh le disait, j'essaye de penser dans les ruines, pas au sens catastrophiste du terme. Oui, il y a des effondrements, mais dans les ruines des certitudes globales qui sont toujours celles qui animent nos institutions et nos experts. Parce que les experts, pour expertiser, doivent penser en termes, c'est ce qu'Anatsing appelait, j'ai beaucoup aimé son expression, scalable. Un vrai expert qui va partout, qui prend tout le temps l'avion et qui va partout, eh bien il a besoin de termes qui lui permettent d'atterrir n'importe où. C'est-à-dire qui ne sont pas dépendants des problèmes et des mesures, qui ne sont pas dépendants des manières de faire et de vivre et d'être affecté localement. Donc c'est la ruine au fond du scalable. Et quand vous disiez à toute échelle, ça ne veut pas dire effectivement que le local doit être une forteresse. Non, non, les choses, nous sommes traversés. Gilles Deleuze parlait de la Terre comme déterritorialisée et déterritorialisante. Les gens voyagent, les virus voyagent, les pollutions voyagent. Donc nous sommes, comment dirais-je, nous n'irons pas vers un monde localisé, ce que Latour d'ailleurs appelle des terroirs, mais la question est, quel que soit le local, comment ces habitants, humains et non humains, comme on disait, ou animal, végétal, humain et microbien, vivent-ils ensemble? Au fond, l'une des choses dont je voulais parler avant tout, c'est d'une part cette biodiversité, le type de passion terrible qu'elle peut animer, et ces écosystèmes. La notion même d'écosystème, ces dangers qui viennent justement de ce que Samir Amin appelle les sciences de la distance. Un écosystème, ça se décrit, et le fonctionnement d'un écosystème, c'est un expert. Ne demandez pas à un habitant d'un pays dans quel écosystème vis-tu. Il est de ce lieu, il est de ce monde. La biodiversité, ce qui me glace dedans, c'est que après qu'elle ait été inventoriée par les colonisateurs, elle est devenue un sujet d'angoisse et de refus de la perte. L'idée que la biodiversité est un patrimoine de l'humanité est l'idée la plus impérialiste que je connaisse. Parce que ça veut dire que nous sommes tous concernés et nous pouvons tous intervenir, et notamment chasser les braconniers en Afrique du Sud et en Afrique de l'Ouest, parce qu'ils vont nous faire perdre, nous priver d'une de cette partie de notre patrimoine qu'est le rhinocéros blanc. Donc c'est un devoir d'ingérence que nous avons dans des situations, et toujours contre des pauvres, parce qu'effectivement, les braconneurs, c'est des pauvres, même si ceux qui achètent l'ivoire sont des riches. Donc, ça veut pas dire que critiquer cet usage de la biodiversité, ce refus de perdre, de voir notre patrimoine, c'est quelque chose qui ne ne résout rien, parce que les seules solutions sont lentes, et justement devant construire des collectifs interdépendants, je vais y revenir. Par contre, savoir quelles sont les passions sombres qu'anime ce sentiment de perte, ce sentiment de perte irréversible à refuser, non, ça il faut réussir à regarder en face, parce que dans les ruines, il y aura des pertes. Dans les ruines, il y aura des pertes, évidemment. La question n'est pas de conserver, la question est d'apprendre à penser avec ce qui se passe et à toutes les échelles. Donc, c'est une petite chose. Je crois, de ce point de vue-là, qu'on vit un autre aspect intéressant de l'époque, qui est que la biologie, certains biologistes sont en train de changer. C'est-à-dire, certains biologistes ont abandonné comme centrale cette idée d'espèce. Le corrélat de l'espèce, du point de vue conservation, c'est le spécimen. Donc, une espèce n'est pas éteinte tant qu'il reste des spécimens. Et ces spécimens, ils peuvent être dans des eaux, et on essaye de les re-sauvagiser. Ils peuvent être dans des eaux, ils peuvent être même de l'ADN, pour si jamais un jour on réussit à ressusciter une espèce. Mais c'est un spécimen, c'est un être anonyme qui représente l'espèce. Donc c'est quelque chose qui n'a de sens que pour les biologistes. Par contre, Deborah Birdrose, dans un livre qui est en train d'être traduit, elle parle pour l'extinction de double mort. Quand le dernier spécimen représentant de l'espèce meurt, il y a mort, oui, c'est la seconde mort. Mais la première mort, c'est quand ces êtres vivants, ces individus vivants, ont à vivre dans un monde dévasté. C'est la disparition des mondes dont ce que nous appelons des espèces, auxquelles ils appartiennent. Donc, la seconde mort, c'est quand justement, les moineaux trouvent de plus en plus difficilement d'autres moineaux. C'est quand les forêts sont silencieuses. C'est quand le monde avec lequel existaient ces espèces se défait. Et je crois que l'idée, on en parlait avec Samir, l'idée du terme monde qui revient est beaucoup plus intéressant que celui d'écosystème. Justement parce que nous ne savons pas. Un écosystème, ça se comprend. C'est pour spécialistes. Nous savons, un écosystème, c'est ses fonctions. Les différentes fonctions qui font tenir ensemble l'écosystème. C'est à peu près aussi naïf que la physiologie du corps humain. L'estomac, c'est pour digérer, les yeux, c'est pour voir, etc. Le monde, nous ne savons pas ce que fait un monde. Nous en sommes ou nous n'en sommes pas. Nous appartenons à un monde, et c'est en y appartenant que nous le connaissons. Donc, il me semble... Oui, j'ai encore 2 minutes. 2 minutes, oui. Nous pouvons dire que nous en sommes, et que la régénération des mondes est une affaire à toutes les échelles, est une affaire où il n'est évidemment pas question d'opposer les humains et les non-humains. Les mondes que nous connaissons sont des mondes habités par les humains. Il y a très peu de mondes, et même les mondes où nous n'avions jamais mis les pieds, en Antarctique, nous y sommes procédés par nos polluants. Donc, effectivement, ça ne veut pas dire que la nature n'existe plus. Si nous pensons la nature sans les humains, oui, ça, exactement. Si nous pensons la nature sans les humains, nous rêvons. Par contre, c'est un mauvais rêve, parce que ça fera que les humains, notamment les pauvres, sont de trop, sont des dangers publics. Par contre, si nous pensons les mondes qui tiennent ensemble, dont les habitants tiennent les uns avec les autres, les uns par les autres, etc., à ce moment-là, la grande différence n'est plus une nature qui existerait ou qui n'existerait pas, mais des mondes dont les habitants tiennent les uns avec les autres, par les autres, au risque des autres. C'est pas facile de te dire. Donc un monde que nous ne connaissons pas, mais je dirais un monde non pas système, mais de partenariat, et où c'est là le partenariat qui doit être, comment dirais-je, qui est à nourrir. Un monde d'interdépendance, donc, mais à nourrir. Et il s'agit de l'opposer. Qu'est-ce qui n'existe pas alors ? C'est, l'espèce n'existe pas quand elle ne dépend plus que des humains. Là, c'est la première demande. Quand les seuls qui vivent, vivent par la grâce des humains. Parce qu'ils l'ont décidé, parce qu'ils ont de la valeur aux yeux des humains. Donc, c'est la dépendance qui fait que, qui est très alliée avec l'idée de protection, nous protégeons. Nous sommes ceux qui protégeons, nous sommes ceux dont tout dépend, et cette perspective-là qui est, comment dirais-je, dangereuse. Et donc l'idée de partenariat m'intéresse, et c'est quelque chose que les biologistes maintenant, certains biologistes, qui a notamment tous entrelacés, quoi que le livre est tellement bon, mais il manifeste, etc., disent l'organisme. Dans un environnement, ça n'existe pas. Il faut voir le milieu vivant et tout ce avec quoi les vivants sont en commerce mutuel. La manière dont ils tissent des mondes et dans ces mondes, comment dirais-je, les tissent eux-mêmes. Et c'est peut-être une idée intéressante. Tsing parle de l'art d'observer, l'art de noticing, c'est aussi l'art d'être sensible, l'art de voir ce que, l'art d'apprendre à voir. On n'observe pas au sens de Tsing comme on observe un instrument de laboratoire. L'instrument de laboratoire, il n'est pas à observer. C'est comme la montre. D'un premier coup d'œil, je sais à quoi elle sert et je sais qu'il est 5h21. Donc, l'art d'observer, c'est autre chose. Ça demande un apprentissage de sensibilité. Quelque chose comme un lien vital dont parlait Samir Amin. C'était un art de goûter, etc. Et je me demande, de ce point de vue-là, si ce milieu de vie ne fait pas que ceux qui y habitent, humains, plantes, animaux, ont cette n'en font partie que par cette sensibilité mutuelle différente, mais que la sensibilité des humains, ça peut s'appeler cet art d'observer, de sentir, de comment dirais-je, d'appartenir. Donc, quand on dit qu'est-ce que c'est ce savoir des humains qui ont l'air de ne pas faire partie d'un milieu, mais d'observer globalement. Eh bien, effectivement, c'est l'art hors sol qui ont produit les sciences, et les sciences peuvent produire des choses tout à fait intéressantes. Mais il faut savoir qu'en ce qui concerne les milieux vivants, seuls ceux qui appartiennent ont l'art d'observer, et ceux qui deviennent avec eux ont l'art d'observer, et l'art justement de non pas protéger, mais vivre avec ceux auxquels ils tiennent et ceux qui tiennent à eux. Thank you.